peux lire un autre de ces juges, disons que les juges que peut-être on a le plus l'habitude de méditer sont Othniel avec son épouse Axa, Gédéon, qui est tout à fait remarquable, et par sa préparation au service, quand il mettait le blé dans un pressoir, et puis sa victoire, mais aussi sa défaite finale quand il devient vieux. Et puis il y a Samson aussi, qu'on a aussi souvent l'habitude de méditer pour les raisons qui ont été évoquées juste avant. Et puis il y a aussi beaucoup d'instructions à retirer dans les derniers chapitres, du chapitre 17 au verset 21, qui montrent un déclin moral et qui montrent un déclin moral qui est particulièrement marqué chez les Lévites, c'est-à-dire chez ceux qui étaient censés être chargés du ministère, du service de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Et toujours très humiliant de voir ceux qui, que les, c'est les conducteurs religieux qui sont à la, en tête de la ruine. Alors, je voudrais peut-être donner un coup d'œil à Jephté, qui est, peut-être on a moins l'habitude d'en parler. Alors, d'abord, la situation au temps de Jephté, juge 10, verset 10. Les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Et l'Éternel dit aux fils d'Israël, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amon, des Philistins, des Sidoniens, des... et Amalek et Mahon vous ont opprimé, vous avez crié à moi, je vous ai sauvé de leurs mains, mais vous, vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Allez, criez aux dieux que vous avez choisis. Eux vous sauveront au temps de votre détresse. » Et les fils d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, fais-nous selon tout ce qui sera bon à tes yeux seulement. Nous te prions, délivre-nous ce jour-ci. » Et ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux étrangers et servirent l'Éternel, et son âme fut en peine de la misère d'Israël. Son âme fut en peine de la misère d'Israël. Ces quelques versets sont assez, sont non seulement frappants, mais ils ont un caractère un peu unique dans la parole de Dieu, en ce sens que il nous a été évoqué les alternances de temps de ruine, de temps de délivrance, de bénédiction, et on a cela encore. Et puis c'est comme si ici on a cette situation bien spéciale où c'est comme si Dieu dit maintenant ça suffit. J'en ai par-dessus la tête de vos égarements, et bien débrouillez-vous. Et vous avez servi d'autres dieux, mais allez vers eux. Mais cette manière dont je parle de façon peut-être un peu relâchée, mais la façon dont Dieu parle dans ces versets n'est pas une façon ironique, n'est pas une façon de moquerie. Mais c'est une façon où Dieu met les fils d'Israël non seulement devant leur responsabilité, mais devant leur état direct, en face. Et regardez où vous en êtes. Alors, d'un côté, là, la réponse des fils d'Israël est bonne au verset 15, dans le sens qu'il y a une repentance vraie, non pas sur des repentance formelle sur des choses fictives. Et elle se traduit par des actes. Verset 16, ils ôtent du milieu d'eux les dieux étrangers, servir l'Éternel. Donc, c'est quelque chose que... quelque chose dans l'application est toujours à méditer pour nous, parce que ce n'est pas des choses anciennes sur les idoles qui n'existeraient plus. On a bien un problème aujourd'hui toujours d'attraction de ce que le monde offre, et non seulement de volupté, plaisir mondain, mais de Dieu, c'est-à-dire de gens qui guident, qui orientent, qui disent ce qu'il faut faire, qui écoutent, qui disent ce dont on doit s'occuper. Et le monde ne manque pas soit de dieux étrangers, soit de faux prophètes qui égarent. Et on est touché, cette fin du verset 16 que j'ai relu, son âme fut en peine de la misère d'Israël. On est touché parce que certes il y a le côté de châtiment, certes il y a le côté de bon, vous avez voulu faire votre propre volonté, ben faites-la donc, qui dont parlent les versets précédents. Mais on voit le cœur de Dieu qui est vraiment qui regarde à quoi on en est, qui est touché effectivement par les souffrances, par les affections, les afflictions de son peuple. Et c'est pas dit qu'il est il a été en peine de ceci ou de cela, de ce point particulier. Il est dit de la misère d'Israël. On voit l'Éternel sensible aux moindres variantes de l'état du peuple. Et combien c'est quelque chose dont il faut nous souvenir, de ce fait que Dieu, c'est non seulement Dieu voit, mais on le sait bien qu'il voit tout, on sait bien qu'il est le Tout-Puissant, mais on voit son âme qui est en peine, et on le voit s'impliquer, prendre à cœur les circonstances, les douleurs dans lesquelles nous sommes mis. Et cela est dit, c'est d'ailleurs dit après qu'ils aient confessé, réalisé leur misère. On voit que l'Éternel entre dans cette affliction. Combien cela doit nous... que nous puissions retenir cette leçon de Dieu qui entre dans nos misères. Alors, on a au chapitre 11, on a donc cette histoire de Jephté. Alors, Jephté, un fort et vaillant homme, donc il avait fils d'une prostituée, c'était résultat d'un péché. Et puis il avait été chassé d'avec ses frères à cause de son origine, et il s'était enfui. Et puis on est frappé par les moyens que Dieu emploie. On aurait tendance à dire, mais enfin, Dieu ne va pas employer des gens pareils, et puis de toute façon c'est contraire à sa sainteté, et oui, c'était contraire à sa sainteté, mais Dieu a va jusqu'à se servir de moyens pareils pour faire d'autant plus ressortir l'état du peuple. On a évoqué tout à l'heure que Aiglon faisait partie des moyens dont Dieu se servait comme jugement sur le peuple, et c'était un ennemi, et on trouve cela souvent dans la parole de Dieu, Babylone et tant d'autres choses, les Assyriens, où Dieu se sert d'ennemi. Là, Jephté n'est pas un ennemi du peuple de Dieu. On va même voir que c'est une situation assez étrange, parce que je ne vais pas tout lire ce chapitre, que nous puissions chacun le lire chez nous si nous ne le connaissons pas. Mais ce chapitre est assez exceptionnel parce qu'on voit dans les versets 12 à 27, c'est Jephté qui envoie des messagers au roi des fils d'Ammon. Donc, on a cette situation de ce Jephté qui, malgré son origine, malgré son origine issue du péché, malgré qu'il ait été non seulement méprisé, mais chassé de sa famille, voilà que c'était quelqu'un qui quand même connaissait ce que Dieu avait fait. Et je crois que c'est assez unique dans le livre des Juges, mais aussi souvent dans la parole de Dieu, de voir un conducteur qui connaît très bien ce que Dieu a fait et qui s'y réfère et qui en parle et qui agit d'après cela. Et quelle leçon! Quelle leçon de voir le plus misérable, Jephté, ainsi se basant sur la parole de Dieu. Alors, voilà que donc la situation, c'est verset 4, les fils d'Ammon font la guerre à Israël, et puis les anciens de Galaad allèrent pour amener Jephté du pays de Tob. Et ils dirent à Jephté, viens, tu seras notre capitaine, nous combattrons contre les fils d'Ammon. Et Jephté dit aux anciens de Galaad, n'est-ce pas vous qui m'avez haï et qui m'avez chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Et les anciens de Galaad dirent à Jephté, c'est pour ceci que nous sommes maintenant revenus vers toi, afin que tu viennes avec nous et que tu fasses la guerre contre les fils d'Ammon. Et tu seras notre chef. Et tous les habitants de Galaad, à nous et à tous les habitants de Galaad. Et Jephté dit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour faire la guerre contre les fils d'Ammon, que l'Éternel y livre, serai-je votre chef? Les anciens dirent à Jephté, l'Éternel est témoin entre nous si nous ne faisons pas selon ce que tu as dit. Disons que ces paroles rendent témoignage de plusieurs choses. Rendent témoignage de ces anciens d'Israël, de conducteurs spirituels, religieux, qui ne consulte pas l'Éternel. Il y a un ennemi, on fonce contre l'ennemi, on s'occupe de ça et on ne demande pas l'intervention de l'Éternel. Et puis, bon, ils font appel à Jephté. Alors, il y a le côté que Dieu l'a permis, mais il y a le côté que ils font appel à un homme et ils mettent leur confiance en un homme. Et puis, la promesse, la récompense, c'est pas du tout que dorénavant, les uns et les autres serviront le Seigneur de fidèle, mais c'est la promesse que Jephté sera chef. Alors, on se rappelle aussi toujours que cette situation d'Israël dans les juges était un petit peu étrange, puisque c'était pas une démocratie où le peuple, c'était une théocratie, Dieu qui gouverne. Mais Dieu qui gouverne sans roi, sans délégué, sans personne possédant l'autorité propre, mais Dieu utilisant des juges, il a été évoqué le nom de sauveur, qui agissaient temporairement et plutôt localement. Et alors, voilà ce fait qu'au fond, ils se remettent sous un joug humain. Alors, Dieu a permis que ce Jephté soit un bon moyen de délivrance. Il a permis que Jephté soit quelqu'un qui quand même craignait Dieu et connaissait la parole de l'Éternel. Mais les fils d'Israël, ils ne l'ont pas choisi pour ça. Ils l'ont choisi parce qu'il était à la tête. Et au verset 3, il nous est bien dit, des hommes légers se ramassèrent autour de Jephté, ils entrèrent en campagne avec lui, il était devenu un chef de guerre, même si c'était de petites guerres locales. Et cela fait partie du déclin, et de façon très frappante d'ailleurs, du déclin, y compris dans le moyen de délivrance. C'est-à-dire que Dieu les sauve, Dieu veut les sauver, puisque Jephté va intervenir, mais le fait même de la manière de choisir Jephté, le fait même de lui promettre cette récompense d'être chef, le fait même que lui accepte cette récompense d'être chef, de dominer, et cela fait partie du déclin. Nous avons d'autant plus à être sensibles à ces choses que nous disons et nous faisons bien, que nous désirons nous rassembler autour du Seigneur avec lui seul comme guide, enfin lui et le Saint-Esprit, et que nous ne voulons pas d'organisation humaine, et dans ce sens-là nous faisons bien, et nous ne voulons pas non plus de chef humain, mais nous attendons ou donc que l'Esprit, que le Seigneur fait à son Église, que l'Esprit suscite, et en tout cela nous faisons bien, et en cela ce livre des juges reste un temps d'instruction, un modèle d'instruction très, très parlant, et que ces dominations humaines ne soient pas quelque chose de désiré, mais que nous puissions nous pénétrer de la parole de Dieu pour être guidés et conduits. Alors, donc, Israël était attaqué par les fils d'Ammon, et puis il était question de la possession d'une partie vers l'Arnon. Alors, pour comprendre si on veut rentrer dans le détail de ces possessions, on trouve quelque chose dans le chapitre, je crois que c'est dans le chapitre 21 du livre des Nombres, où il nous est, c'est dans les versets 25 à 27, mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus, de Nombres 21, où on voit l'origine de ce que ce territoire avait changé de dominateur du monde. Et alors, Jephté le lui rappelle. Encore une fois, je ne lis pas les versets 12 à 27, mais puissions-nous les lire en détail chacun à la maison et voir. Et puis il insiste, verset 23, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, a dépossédé les Amoréens devant le peuple. Et toi, tu nous déposséderais, ne possèdes-tu pas ce que ton Dieu Kemosh t'a fait posséder? Et nous aurons la possession de tous ceux que l'Éternel, notre Dieu, aura dépossédés devant nous. » Vaut-tu mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, c'est celui qui avait voulu maudire le peuple par le moyen de Balaam, celui-là. A-t-il combattu contre Israël pendant... Et tout le détail de ce discours est assez beau par l'insistance qu'il y a à rappeler ce que Dieu a fait, ce que Dieu a donné, ce que le peuple possède, ce que le peuple possède par grâce, parce que Dieu l'a donné, que nous puissions ainsi nous pénétrer beaucoup plus de tout ce que le Seigneur nous a richement comblé et l'apprécier à sa valeur. Et alors, verset 27, ce n'est pas moi qui ai péché contre toi, mais c'est toi qui as fait tort en m'attaquant. L'Éternel le juge, jugera aujourd'hui. Et c'est aussi beau de voir qu'il ne fait pas valoir sa force à lui, mais l'Éternel qui jugera. Alors, le roi des fils d'Ammon s'endurcit, verset 28, le verset 29, l'Éternel fut sur Jephté, et puis il gagne la bataille. Et alors après, on a cette histoire du vœu que Jephté fait à l'Éternel, du vœu de lui vouer ce qui sortira des portes de sa maison, et finalement c'est sa fille. Et alors on a cette terminaison de ce chapitre par cette histoire du sacrifice humain de la fille de Jephté. Histoire qui est instructive à bien des égards, et instructive dans le vœu que l'Éternel a fait, mais c'est que dans le vœu que Jephté a fait à l'Éternel. Et il faut se confier dans l'Éternel, et c'est bien de lui vouer toute notre vie, c'est bien de nous dévouer à ses intérêts, de faire passer les intérêts de Jésus-Christ avant tout, ça c'est bien. Mais un vœu, c'est des vœux qu'on trouve ça ailleurs aussi, qui relèvent du marchandage. Tu me donnes, moi je te donne. C'est Jacob était fort pour faire ça avec l'Éternel. Si tu me ramènes dans ce lieu, tu seras mon Dieu. C'est on marchande, mais on ne marchande pas avec le Seigneur. C'est d'ailleurs la notion même de marchander est tout à fait contraire à la grâce. La grâce, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et alors on compte sur lui, et on peut compter sur lui. Il avait expliqué, c'est d'autant plus extraordinaire que il avait expliqué tous les soins de Dieu au cours des siècles, comment l'Éternel avait amené Israël à posséder ce territoire. Et au dernier moment, il fait un marchandage avec Dieu. Au lieu de se confier en l'Éternel, puis de lui dire, mais Éternel, regarde ce que tu as toujours fait, ben continue donc à le faire. Alors, donc, et l'Éternel les livre, et puis l'Éternel permet qu'il y ait cette fille qui vient en premier, et puis qui, selon ce vœu, elle devait être sacrifiée. La question est un petit peu difficile, parce que c'est sauf erreur, c'est le dernier chapitre du Lévitique, il y a une des instructions sur le respect des vœux et une insistance que quand on avait fait un vœu, on ne devait pas se dédire, parce que c'était une question d'honneur de l'Éternel. Si on se dédisait, c'était une sorte de moquerie contre Dieu, en estimant que ce qui lui était ce qu'on avait dit n'avait pas d'importance pour l'Éternel. Je crois qu'on trouve ça sauf erreur. Donc, il s'agit de Lévitique 27. Si on a ça, par exemple, Lévitique 27, verset 28, aucune chose vouée que quelqu'un aura vouée à l'Éternel de tout ce qu'il a, soit homme, soit bête, champ, sa position, ne se vendra ni ne se rachètera. Toute chose vouée sera très sainte, consacrée à l'Éternel. Quiconque d'entre les hommes est voué à Dieu ne pourra être acheté, il sera certainement mis à mort. Donc il semblerait que l'application stricte de la loi était bien l'application du vœu. D'un autre côté, on ne voit jamais des sacrifices humains demandés par l'Éternel. Il n'y a qu'un sacrifice humain qui a dû être fait, c'est celui du Seigneur, Dieu donnant son fils, livrant son fils, alors que même le cas d'Isaac, Dieu a arrêté son fils. En tout cas, on ne voit pas Jephté essayer d'interroger l'Éternel pour voir s'il y avait s'il y avait moyen d'éviter un sacrifice humain. La fille est extraordinaire. On la voit, donc, Juges 11, verset 36. « Mon père, si tu as ouvert ta bouche à l'Éternel, fais-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, après que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Amon. » On voit, c'est pas seulement une soumission à son père, c'est plus que cela. Elle sent qu'il y a eu un vœu à l'Éternel. Elle sent qu'une promesse d'honorer l'Éternel par un sacrifice a été faite, et elle l'accepte sans contestation. Et de ce côté-là, c'est une fille extraordinaire. Et il semble que ses compagnes, les jeunes filles de ce temps, elles sont allées pleurer avec elle, mais on les voit pleurer plutôt dans une participation à l'affliction. Une participation à la douleur. On ne voit aucune de ces jeunes filles lancer une contestation contre l'Éternel ou une contestation contre Jephté, ou lancer un parti pour changer les règles. On voit dans tout cela, c'est une soumission humble, mais et puis d'autant plus, au fond, c'est d'autant plus extraordinaire que c'est les personnes, on peut dire les personnes faibles, c'est pas les anciens du peuple, c'est pas les conducteurs à la tête qui ont imposé l'application d'un vœu. On voit ces jeunes filles dépourvues de force, d'autorité, de puissance. On les voit se courber devant ce vœu et en garder la mémoire d'année en année. Alors, là aussi, on voit au fond une... On peut discuter sur l'application du vœu, mais en un sens, ça ne sert à rien. En un sens, ce qui est beau, c'est de voir ces personnes humbles qui cherchent simplement à plaire plaire au Seigneur dans ce qui a été dit selon sa parole. Bien que on voit ainsi que dans ces temps de misère, d'abaissement, dans ces temps de détresse aussi, on voit des humbles fidèles qui, malgré leur, leur bas état, Jephté également, dans son origine, malgré leur bas état, glorifie le Seigneur de manière exceptionnelle. Il y a le déclin. Il y a le déclin dont les conducteurs spirituels et religieux ont à se reprocher, mais il y a au travers de tout cela des âmes fidèles qui, quoi qu'il en soit et malgré toute cette situation, glorifient le Seigneur qui nous soit donné d'en faire partie.